c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Igor Strauss.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pas du vent. Alors que nous commémorons le 30e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, il y a des phrases qui résonnent de façon très particulière. Ainsi, quand Pierre-Franck Chevet, le président de l'autorité de sûreté nucléaire, déclare au journal Le Monde, ouvrez les guillemets, un accident majeur comme ceux de Tchernobyl ou de Fukushima ne peut être exclu nulle part dans le monde, y compris en Europe. Cela a de quoi inquiéter plus d'un Européen. Ajoutez à cela le fait que la plupart des 58 réacteurs français ont été mis en service dans les années 80 et approchent donc de leur date limite de fonctionnement et l'inquiétude monte encore d'un cran. Pourtant, les défenseurs du nucléaire le clament haut et fort depuis des années. Le nucléaire français est sûr, propre et bon marché. Difficile dans ces conditions d'avoir un avis clair et définitif. Restent donc les questions. Les réacteurs peuvent-ils être prolongés avec des normes de sûreté rehaussées? Les difficultés financières des acteurs industriels du nucléaire peuvent-elles remettre en cause les contrôles et notre sécurité à tous? Bref, le nucléaire est-il sûr? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités. Michel Rivasi, député Europe Écologie Les Verts. Roland Desbordes, président de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. François Damerval, conseiller régional d'Île-de-France. Ancien assistant parlementaire de Corinne Lepage qui a collaboré à la rédaction de l'ouvrage « L'Atlas du nucléaire » aux éditions Autrement. Et Jean-Baptiste Renaud, journaliste, auteur du documentaire « Nucléaire, la politique du mensonge ?» point d'interrogation, diffusé sur Canal+. Quand on parle du nucléaire, difficile de s'y retrouver, disais-je. Et pour cause, voici la présentation du nucléaire par EDF qui exploite les 58 centrales françaises.
Une centrale nucléaire produit de l'électricité grâce à la chaleur qui se dégage de la fission des atomes d'uranium. Il existe plusieurs types de réacteurs nucléaires. La technologie retenue par la France est celle du réacteur à eau pressurisée, qui est également la plus répandue dans le monde. La production d'électricité d'origine nucléaire génère de la radioactivité et des déchets radioactifs. La sûreté des installations est donc un impératif. Les déchets sont eux rigoureusement gérés, triés et conditionnés avant d'être stockés de façon sûre. Les centrales nucléaires permettent de produire de très grandes quantités d'électricité et n'émettent pas de gaz à effet de serre. En France, elles sont utilisées en continu pour répondre aux besoins croissants en électricité.
D'après EDF, la sûreté des installations est donc un impératif. Les déchets sont rigoureusement gérés, triés et stockés de façon sûre. Et cerise sur le gâteau, le nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre. Des affirmations pas tout à fait exactes selon l'un de nos invités, le journaliste Jean-Baptiste Renaud, auteur du documentaire « Nucléaire, la politique du mensonge » diffusé sur Canal+.
Le 13 mars 1980, un deuxième accident va se produire dans cette même centrale. Un accident encore plus grave. Ce jour-là, dans le réacteur, pas d'erreur humaine, mais un défaut de maintenance. La centrale va connaître une deuxième fusion du cœur.
Ce jour-là, il y a une tôle qui s'est décrochée et vient se obstruer les canaux. Plusieurs canaux, je crois, de mémoire, deux ou trois.
Le morceau de tôle rouillée détaché du toit va donc bloquer le refroidissement normal de l'uranium. La température augmente jusqu'à atteindre plus de 1000 degrés.
Et obligatoirement, le gaz ne pouvait plus passer. Et donc, les canaux n'étant plus refroidis, ils sont montés en température jusqu'à la fusion.
Ici aussi, des dizaines de kilos d'uranium fondent et se répandent dans le réacteur. La centrale est arrêtée en urgence. Une nouvelle fois, la catastrophe est évitée de peu. Les réparations peuvent commencer. Elles dureront presque 3 ans.
C'est plus que grave. Ça serait maintenant. Je pense que les ONG demanderaient l'arrêt de la filière nucléaire si ça arrivait encore aujourd'hui. Je vous dis pas, ça ferait la une des 20 heures pendant quelques semaines.
Mais en 1980, l'accident de Saint-Laurent est bien loin de faire la une de l'actualité. Un seul reportage, à l'époque, à la télévision nationale. Il relaie ce qui va devenir la version officielle. Il n'y aurait aucune raison de s'inquiéter.
C'est la centrale nucléaire de Saint-Laurent-A qui a dû être arrêtée jeudi soir. Une importante augmentation de la radioactivité ayant été détectée. Un communiqué d'EDF précise qu'il n'y a aucun danger tant pour les populations environnantes que pour les travailleurs de la centrale.
Et c'est tout. Le rapport officiel est formel. Il y aurait eu seulement de faibles rejets radioactifs et uniquement à l'intérieur de la centrale. Peu après l'accident, l'industriel organise une réunion d'urgence à la préfecture de Blois. Michel Aimer, conseiller général, était présent. Ce jour-là, EDF annonce discrètement aux élus que l'accident va tout de même engendrer des rejets radioactifs à l'extérieur.
Là, dans cette salle, pendant cette réunion, est-ce qu'on vous dit que l'accident va avoir des conséquences ?
On nous dit qu'il faudra dégonfler le réacteur, c'est-à-dire rejeter à l'atmosphère le gaz carbonique.
Donc, du gaz carbonique mais, chargé de radioactivité.
Absolument. Et cela se fera au travers de filtres. Et dans le respect des limites annuelles autorisées. Voilà le discours de l'époque.
Et c'est à l'époque que vous y avez cru ?
Oui, oui. Il n'y a pas d'éléments précis permettant de le mettre en doute.
L'accident n'a-t-il vraiment entraîné que quelques rejets de gaz carbonique dans l'atmosphère ? 35 ans après, nous avons découvert que la réalité est bien différente de la version officielle. 'Car au cours de notre enquête, nous avons pris contact avec un ancien salarié de la centrale. Ce qu'il a découvert est loin d'être rassurant. C'est écrit noir sur blanc. Des rejets radioactifs extrêmement dangereux ont eu lieu. À la page 81 du rapport confidentiel, on lit que l'accident a entraîné le rejet d'émetteurs alpha. En jargon nucléaire, les émetteurs alpha, c'est du plutonium. Un élément hautement radioactif, la substance la plus dangereuse sur Terre. Pour remettre la centrale en fonction, il a alors fallu nettoyer ces particules de plutonium. Comment EDF s'en est-elle débarrassée ? Tout simplement, en rejetant le plutonium directement dans la Loire. Une pratique illégale qui va pourtant durer 5 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour diluer ce plutonium dans la Loire. Selon les textes en vigueur, si un tel rejet se produisait aujourd'hui, il faudrait évacuer les populations autour de la centrale. La direction actuelle d'EDF a refusé de nous répondre sur ces rejets illégaux.
Jean-Baptiste Renaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce documentaire nucléaire, La politique du mensonge. Vous parlez de deux accidents dans la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux en 1969 et en 1980. Ces deux accidents feraient partie des 10 plus graves accidents du nucléaire dans le monde. Ce n'est pas très rassurant tout ça.
Non, c'est pas très rassurant et puis surtout c'est pas très connu. Si on prend le classement officiel tel qu'il a été fait par l'INES, sur l'échelle INES qui classe les accidents nucléaires, ce sont deux accidents qui sont classés au niveau 4. À l'échelle INES, le niveau 0, 1, 2 et 3 sont des incidents à proprement parler. Et à partir du niveau 4, on entre dans la catégorie accident. Donc,
ça aurait pu être niveau 5 si la pollution de la Loire avait été reconnue, c'est ça, hein. Et ça va jusqu'à 7, Fukushima et Tchernobyl.
Exactement. Si aujourd'hui on avait eu une communication transparente d'EDF sur des rejets de plutonium, ce qui a été le cas, il est fort probable que cet incident aurait été réévalué et peut-être passé en niveau 5.
François Damerval, vous étiez au courant de ces deux accidents ?
Alors, l'information a commencé à filtrer dans les années 2000 et notamment on a vu grâce aux journalistes d'investigation qui ont fait leur travail que cette information pouvait remonter. La loi du secret qui a entouré l'intégralité du début du programme électronucléaire français est quand même un petit peu en train de rompre, notamment parce que d'abord il y a quelques lanceurs d'alerte au sein des entreprises et ça faut quand même rendre hommage à ceux qui rompent cette loi du silence parce que à un moment il faut que les choses soient sues. Et après il y a toute la problématique qu'il y a autour des risques nucléaires. On a eu d'autres éléments qui sont intervenus, par exemple sur la question de la fosse des Casquets, qui a été l'endroit où on a enfui les déchets nucléaires dans la Manche pendant des dizaines d'années, qui a été interdit à un moment, et lorsqu'en 95-96, la ministre de l'Environnement de l'époque demande à avoir un recensement de ces déchets nucléaires, les militaires n'arrivent pas à retrouver les fûts qui ont été jetés dans la Manche. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, à un moment, commence à faire lever le voile sur toutes ces questions. Il y a un premier rapport du CPP en 96 sur les leucémies autour de La Hague, qui a été mené par le professeur Jean-François Vielle, qui a été démoli. Tout ce qu'il affirmait dans son rapport était stricte vérité. Donc il y a cette stratégie de mensonge qui a commencé à être démontée, et l'ère de la communication numérique, l'ère d'Internet, permet aussi cette transparence qu'il n'y avait pas dans les années 80. Et je pense qu'un accident comme Saint-Laurent, aujourd'hui, à l'heure d'Internet et à l'heure de Twitter, ne pourrait pas rester totalement inconnu comme il l'a été à l'époque.
Roland Desbordes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'ACRIRAD. Alors, vous n'êtes pas à nos côtés ici, dans nos studios, ici, les Moulineaux, mais en duplex d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France. J'en profite d'ailleurs pour remercier les équipes techniques de France Bleu Provence. Est-ce que ces accidents 69 et 80 doivent nous inquiéter encore aujourd'hui? On imagine que des progrès ont été réalisés dans le domaine du nucléaire. Est-ce que ça pourrait encore se reproduire aujourd'hui? Est-ce qu'on est plus en sécurité?
Alors, suite à Fukushima, le discours a changé. C'est vrai que avant Fukushima, vous le signaliez dans l'introduction, ce genre d'accident était considéré comme impossible. En fait, il s'était déjà produit en France, certes pas au niveau de Tchernobyl ou Fukushima, mais on aurait pu très bien déraper à ce niveau-là. Nous, on le savait plus ou moins, parce qu'on avait fait un colloque, et Michel Ivrasi s'en souviendra certainement, à Montauban, où on avait invité des scientifiques du CNRS qui mesuraient le plutonium dans les fleuves de France, et on voyait très bien qu'il y avait une anomalie tout à fait dans la en aval des centrales nucléaires de la Loire, en plutonium. Plutonium rejeté par les centrales nucléaires. Alors c'est marrant parce qu'en situation normale, ça devrait être zéro. Sauf qu'on sait très bien que c'est pas zéro. Et d'ailleurs, on le voit à travers les études qui avaient été faites par Jean-Marie Martin. Nous aussi, la CRAD, on a eu l'occasion de le faire dans la vallée du Rhône, etc. Là, il y a eu un rejet massif. Bon, parce qu'il y a eu un accident.
À 5 ans de rejet, donc c'était énorme, hein, effectivement.
Oui, c'est énorme. Effectivement, c'est tout à fait anormal que EDF, apparemment, a eu l'autorisation de le faire, ça. C'est scandaleux, c'est vrai. Les centrales nucléaires en rejettent de la radioactivité en fonctionnement normal et avec la bénédiction des autorités. Certes, officiellement, il n'y a pas de plutonium, mais en fait, on sait très bien qu'il y en a quand même un petit peu. Comme on ne le mesure pas parce que c'est interdit, du coup, on n'en trouve pas et du coup, on dit qu'il n'y en a pas. Mais nous, on le sait bien qu'il y est.
Alors, Michel Rivasi, bonjour.
Bonjour.
On parle là du problème qu'il y a eu dans une centrale nucléaire. Mmh. Est-ce que cela signifie que toutes les centrales nucléaires françaises ne sont pas sûres? Est-ce qu'on peut extrapoler?
Ça a été au niveau de la rue d'Ulm, avec Jean-Marie Martin, qui nous avait le premier indiqué qu'il trouvait du plutonium en aval de la centrale de Saint-Laurent. Et à l'époque, vous savez que les centrales nucléaires n'ont pas le droit de rejeter notamment des alpha et notamment du plutonium. Par contre, ça rejette du césium, ça rejette plein de radioéléments, en fonctionnement normal. Alors maintenant, est-ce que ça peut arriver dans les autres centrales? Le témoignage que vous avez eu dans le documentaire montre que c'est tout à fait possible. Et ce qui s'est passé à Fukushima, la fusion des cœurs, ça a montré que quand il y a une catastrophe naturelle, séisme plus tsunami, mais nous on pourrait avoir séisme plus inondation, et quand on prend le cas de Fessenheim, si jamais il y avait un séisme important, une rupture de la digue du canal du Rhin, eh bien, ça peut inonder complètement la centrale et supprimer la source de refroidissement. C'est pour ça que, après Fukushima, il y a eu de nouveaux standards vis-à-vis de la sûreté nucléaire et qu'EDF a une somme colossale à investir dans les réacteurs si on veut qu'ils soient conformes et qu'ils résistent à plusieurs aléas, vous voyez, séisme plus inondation. Et ça, c'est assez nouveau par rapport à Fukushima. Et quand on voit ce qui s'est passé à Saint-Laurent, moi je suis très surprise que personne n'en parle, que même l'autorité de sûreté nucléaire ne revient pas sur ce passé pour dire qu'une fusion du cœur, c'est l'accident qu'on peut attendre dans n'importe quelle centrale à l'heure actuelle en France et en Europe.
Alors, un petit mot, oui, vous voulez rebondir, Jean-Baptiste Renaud.
Non, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les travaux de Jean-Marie Martin, qui est un scientifique, avaient déjà montré qu'il y avait force suspicion de rejet de plutonium en aval de la centrale de Saint-Laurent. Ce qui est intéressant, c'est tout le cheminement qu'il y a eu après, c'est-à-dire qu'au moment où il a sorti ses révélations, c'était dans les années 80, un petit peu après le deuxième accident, il a essuyé un mépris assez poli des autorités nationales, et il a fallu l'an dernier, dans ce documentaire, je montre le document d'EDF interne qui reconnaissait lui-même que oui, nous nous sommes débarrassés de plutonium, pour que ça fasse un peu bouger les choses et que, rétroactivement, ça valide les thèses de Jean-Marie Martin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu attendre la diffusion du documentaire au mois de mai dernier pour que l'IRSN, qui est donc aujourd'hui le successeur du SCPRI, qui était l'autorité de sûreté à l'époque, l'IRSN, au mois de juillet, donc 2 mois après la diffusion du documentaire, a fait ses propres prélèvements dans la Loire autour de la centrale. Et sans surprise, elle a trouvé, elle aussi, du plutonium, dans des doses similaires à celles qui avaient été trouvées dans les années 80. Bah, c'est assez... ironique, et c'est assez tragique qu'il ait fallu attendre 35 ans pour qu'une autorité de sûreté, l'IRSN, reconnaisse officiellement, enfin, ce qu'on savait depuis un moment.
Roland Desbordes, en même temps, on sait que l'industrie nucléaire est sans doute celle qui est la plus contrôlée au monde. Ça, ça devrait nous rassurer.
Ça, c'est de la communication.
Voilà, mais quand EDF et Areva nous disent que qu'ils souhaitent être transparents, ils nous disent qu'un Fukushima ou un Tchernobyl ne pourrait pas avoir lieu en France, est-ce qu'il faut les croire, justement ?
Ah non, aujourd'hui, justement, à la suite de Fukushima, alors pas l'IRSN. L'IRSN est resté sur sa position ancienne. C'est l'expert de l'État, c'est ça qui m'inquiète le plus. Par contre, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, elle a bien signalé par son directeur, au lendemain de Fukushima, c'est possible. Et depuis, on a fait des évaluations complémentaires de sûreté sur nos installations nucléaires. On a constaté qu'il y avait de gros travaux à faire, comme l'a rappelé Michel Rivasi, etc., etc. Et on continue à tourner. C'est ça. Et là, du coup, moi, je trouve que le discours a changé. Maintenant, c'est plus il est possible, il est probable, la catastrophe nucléaire au sein de l'Europe. Et là, il y a un inventaire des travaux à faire. Tout le monde est d'accord, il faut les faire, sauf que on n'a pas l'argent, ça prendra du temps, et donc on continue à tourner. Moi, je suis désolé, on ne prend pas en compte sérieusement ces risques-là. C'est pour ça que vous dites, oui, ça paraît comme étant une industrie très surveillée, très contrôlée, et quand on voit
ça, c'est ce qu'assure EDF, hein.
Les erreurs qui ont été commises à TEPCO, par TEPCO au Japon, à Tchernobyl, et nous, sur cet incident de Saint-Laurent, sur les causes, on se dit, mais bon, ça voudrait être l'industrie la plus surveillée, la plus contrôlée, le top, et en fait, ça ne l'est pas dans la réalité. Quand on analyse les incidents qui se produisent dessus, qui certains dérapent en accident. On n'est pas dans la très haute technologie.
Michel Rivasi, c'est vrai que la plupart des 58 réacteurs français ont été construits dans les années 80 et donc approchent de leurs 40 ans de fonctionnement, date limite de fonctionnement. La question est donc de savoir si on peut les prolonger avec des normes de sûreté rehaussées. Est-ce que ça, c'est envisageable selon vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, écoutez, c'est un risque qu'on va courir et c'est envisageable parce qu'à l'heure actuelle, EDF n'a plus le choix. Si on arrêtait les réacteurs, vous voyez, d'ici 2020, il y a 20 réacteurs qui vont dépasser les 40 ans. Si on arrête ces réacteurs, on n'a pas les moyens financiers de construire, il faudrait construire 11 EPR. Sachant qu'un EPR, c'est au minimum 10 milliards et en plus, aucun n'a fonctionné. Donc, quand Ségolène Royal a dit on va prolonger, d'abord, c'est pas... Le politique qui peut dire ça, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui peut dire on peut prolonger, mais il y a des maillons très faibles. Il y a le maillon qui est la cuve des réacteurs qu'on ne peut pas remplacer. Qu'on prenne par exemple Fessenheim, il y a des fissures dans la cuve. À Tricastin, il y a des fissures. Au Bugey, il y a des fissures. Donc ça, c'est un risque qu'on va prendre si on prolonge. Il y a le radier, vous voyez, c'est ce qui est en dessous du réacteur. Il va falloir l'épaissir, ce radier, parce que regardez ce qui s'est passé à Fukushima quand il y a une fusion du cœur. Eh bien, les rayonnements sont tellement forts, ça vous détruit pratiquement le béton. Donc, plus le béton est important, moins le magma va aller au niveau de la nappe phréatique. Donc, moi, c'est un risque supplémentaire qui va être très important. Et l'autorité de sûreté nucléaire qui commence à faire un chantage à l'État en disant « Vous ne nous donnez pas les moyens financiers pour avoir suffisamment d'experts pour contrôler les réacteurs » et pour qu'il soit renouvelé.
Bah pour être très précis, l'ASN donc, a déclaré que la rénovation des centrales nécessiterait non seulement un très gros travail d'analyse hein, pour voir les travaux qu'il y a à faire, mais aussi des ressources nécessaires pour assurer pleinement leur mission de contrôle, ressources qu'ils estiment ne pas avoir, évidemment. Restez avec nous, on va y revenir dans la seconde partie de cette émission, puisque nous arrivons déjà au terme de la première partie. C'est pas du vent à suivre.